Voilà, c'est là. On est au cimetière Saint-Pierre, le grand cimetière de Marseille. On a longé le mur pendant mur d'enceinte pendant environ 10 minutes à pied. Et là, on arrive sur une grande dalle, 2,50 m sur 1,50 m. Elle est au bout d'une allée, contre le mur. Et on pourrait très bien ne pas la voir, on pourrait très bien marcher dessus. Et en fait, sous cette dalle, ben, c'est en quelque sorte le carré des suppliciés. C'est là où on enterrait les guillotinés, ceux dont on n'a pas rendu le corps aux familles. Et il n'y a absolument rien pour désigner cet emplacement. C'est au bout d'une allée, c'est contre le mur, et aucune inscription, rien. Il ne faut pas que ça devienne un lieu de recueillement. Oui, ces morts qui sont là ne doivent pas être connus, honorés bien sûr, mais surtout effacés. Ils doivent être effacés de notre mémoire, effacés de nos vies, effacés de notre histoire. On a peur peut-être qu'ils sortent un peu, que ces cadavres nous tirent un peu par le pied. Peut-être aujourd'hui on a un peu mauvaise conscience, on ne sait pas.
Bonjour, un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Baumettes à Marseille. Hamida Djandoubi, un ouvrier agricole de 28 ans, originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coups et blessures. Cette exécution est la troisième depuis le début du septennat du président Giscard d'Estaing. À deux reprises, pour Christian Ranucci en juillet 1976 et pour Jérôme Carin en juin 1977, le chef de l'État avait laissé, comme aujourd'hui, la justice suivre son cours. Quatre fois, la grâce présidentielle a été accordée.
On a l'impression d'ailleurs que ça a été rebétonné un peu partout récemment, enfin il y a quelques années.
Oui, alors récemment, ça a l'air quand même un peu ancien, mais effectivement, ça date pas de 1977, donc date de la dernière exécution en France. Malgré cela, on voit que ça s'effrite partout. Ce n'est pas entretenu, mais d'ailleurs, c'est pas destiné à être entretenu. Je pense que d'ailleurs, symboliquement, c'est assez beau comme ça, c'est-à-dire nulle part, rien, du béton qui s'effrite, qui part en miettes. Un morceau d'histoire, mais il faut vraiment le connaître, il faut vraiment savoir ce que c'est.
Et donc c'est là, Jean-Yves Le Naour, que repose Hamida Djandoubi.
C'est là que repose Hamida Djandoubi, le dernier guillotiné de notre histoire. C'est vrai que souvent, quand on pose la question qui est le dernier guillotiné, souvent on nous dit c'est Christian Ranucci, l'affaire du pullover rouge. Mais non, le dernier, il est inconnu généralement des Français, c'est Hamida Djandoubi, un petit gars qui est venu de Tunisie en 1968 à 19 ans. Et puis qui a sombré dans la violence.
Hamida Djandoubi, une toute dernière peine. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier. Première partie, le fait divers. Est-ce qu'on peut avoir un portrait physique d'Hamida Djandoubi? C'était un bel homme, hein, Jean-Yves Le Naour.
Oui, ceux qui l'ont connu disent tout. Non, à toutes, parce que c'était des femmes. Ceux qui ont connu Hamida Djandoubi disent tous que c'était un bel homme. C'est vrai que on a assez peu de documents, de photos de lui. On doit avoir deux ou trois photos de lui, et c'est lors de sa détention. Donc, il est déjà dans une circonstance particulière, mais il a un petit air d'Henri Belafonte, selon ceux qui l'ont connu et celles qui l'ont connu, parce que c'était un bourreau des cœurs, qui aimait beaucoup sortir, beaucoup danser, boire, faire la fête. Il était jovial, il était prévenant, il était sympathique, aimable. Il était jeune, il était beau, et du jour au lendemain, les choses ont basculé.
Dans quelles circonstances il arrive en France?
On ne sait pas grand-chose de son passé, Hamida Djandoubi. Il arrive en France à 19 ans, en 1968. Il vient faire des études, il s'inscrit à la fac de droit, mais en réalité, il n'a pas le niveau et il devra abandonner ses études très rapidement. Il n'a pas d'argent, donc il est logé d'abord chez un épicier. Il rend des services et puis il a installé son lit de camp dans l'épicerie et il fait ses études le jour, également. Bon. Mais à partir du moment où il arrête ses études, il s'installe dans un foyer de jeunes travailleurs, il trouve un emploi de salarié agricole. Alors, c'est pas très bien payé, mais pour lui, c'est formidable, parce que la France, il en rêvait quand il était en Tunisie. Maintenant, il a un salaire, il peut sortir le soir, il est logé, il peut avoir une vie. Il a aussi acheté une voiture, il va sillonner les routes de Provence, de France et puis de l'étranger. Il est allé en Allemagne, en Suède, parce qu'il avait rencontré des Suédoises à Marseille, donc il est allé en Suède les retrouver. Ah, c'est la vie d'un jeune homme, une belle vie. Il travaille, il a de l'argent un petit peu, bon, pas grand, c'est pas des gros salaires, mais il claque tout. Hein. C'est la vie d'un jeune homme qui aime la vie, voilà, tout simplement. Il est issu d'une famille nombreuse, il n'a pas été élevé avec beaucoup d'amour, il a été élevé vraiment dans une tradition blédarde, c'est-à-dire à coups de gifle, à coups de torgnole. Quand il commettait une bêtise, sa mère lui enduisait l'anus de harissa. Vous voyez, c'est quand même un peu terrifiant ce genre de punition. Et d'ailleurs, la harissa dans l'anus, on le retrouvera parmi les tortures qu'il infligera à sa maîtresse.
C'est en octobre 71, c'est ça, que Jean-Yves Le Naour qu'il perd une jambe.
Oui, en octobre 1971, comme il est salarié agricole, il est en train de labourer un champ avec un motoculteur, et puis le motoculteur se renverse, sa jambe est happée, et elle est hachée dans les pales du motoculteur. Et là, les choses vont complètement, sa vie va complètement basculer, parce que finalement, toute sa vie était fondée sur son physique. C'était le beau gars qui brillait dans les discothèques, qui emballait les nénettes. Bon, voilà. Et là, il a une jambe en moins. Il perd beaucoup d'estime de lui et il se met à mépriser les femmes. Il va changer complètement au plan moral, parce que lui qui sortait tout le temps ne sort plus du tout. Il est renfermé. On voit bien que physiquement sortir avec sa prothèse, ça l'humilie en quelque sorte. Ouais, il a changé vraiment du tout au tout.
Eliane Perasso, quel était votre rôle lors du procès d'Amida Djandoubi?
J'avais été contactée par la famille, le père, la mère et le frère de Elisabeth Bousquet.
La victime, donc.
La victime, oui. Alors, Elisabeth Bousquet, évidemment, moi, je ne sais d'elle que le récit que m'en a fait son père. C'était une jeune fille avec une vie parfaitement normale, qui travaillait, qui avait une vingtaine d'années à l'époque où les faits se sont passés. Monsieur Bousquet, père, était hospitalisé à l'hôpital de la Conception à Marseille, et il se trouvait dans la même chambre que Djandoubi, qui venait de subir l'opération de l'ablation de sa jambe. Et voilà, la rencontre qui a fixé, telle une photographie, tel un arrêt sur image, la représentation de ce trio, le père, la fille et cet homme qui était là, vis-à-vis duquel Elisabeth Bousquet a manifesté une infinie compassion. Une fois l'épisode hospitalier terminé, effectivement, ils vont avoir une relation amoureuse. Je ne pense pas qu'elle ait été prise de passion pour lui. Je ne le crois pas vraiment. Mais lui, probablement, s'est attaché à cette femme dont il voyait à la fois qu'elle pouvait être une main secourable, telle une bonne mère, dirait Winnicott, alors que lui-même avait eu une mère, entre guillemets, mauvaise. Et en même temps, il s'est attaché à cette femme.
C'est une jeune femme, une très jeune femme, Elisabeth. Bon, ben, c'est peut-être un peu aussi une noix blanche qui croit un petit peu au prince charmant. Et bon, ben, voilà, ils vont finir par avoir une liaison, aussi simple que cela.
Ses parents ne la décrivaient pas comme ça. Il disait qu'elle était extrêmement gentille, extrêmement attentionnée, voulant aider les autres, etc. Mais pas bébête, hein.
Eliane Perasso, avocate.
Pas du tout naïve. Et ce portrait qu'on a voulu faire d'elle, et même en montant le scénario d'une, entre guillemets, d'une prostituée, puisqu'elle elle n'a pas pu échapper à l'emprise de John Duby lorsqu'il lui a imposé des relations tarifées avec ses camarades qui étaient au foyer Sonacotra. Hein? Mais je dirais que c'était une jeune fille tout à fait banale, normale, avec une fratrie, un père, une mère, qui avait des espérances, probablement.
À un moment donné, Jean Doubi va la prostituer.
Jean-Yves Le Naour, historien.
Dans le foyer Sonacotra, la forcer à se prostituer. Et elle ira le dénoncer à la police, au commissariat. Il sera convoqué, mais la police va classer le dossier sans suite. On n'était pas dans le féminisme à l'époque. Hein, c'était, oh, mais elle le connaissait, couchait avec lui. Alors bon, elle aurait très bien pu coucher avec d'autres hommes. Elle est allée dans un foyer de jeunes travailleurs, elle savait à quoi s'attendre, etc. On a classé le dossier. Et néanmoins, Jean Doubi a dit à Elisabeth, si je te retrouve, hein, je te tuerai.
Alors, mon travail, bien des années après, sur le plan psychanalytique, a été d'envisager l'hypothèse que John Doubi se réveille, il sort de l'anesthésie, il se rend compte qu'il n'a plus son pied, ni sa jambe. Et dans son champ de vision, apparaît le visage d'Elisabeth Bousquet. Ce qui fixe une espèce de scène hallucinatoire, dont on peut supposer qu'il a, à ce moment-là, insufflé dans sa pensée, dans son cœur, dans son fonctionnement, que c'était elle qui lui avait pris sa jambe. Et il lui vouera une haine inextinguible qui le conduit jusqu'au passage à l'acte.
Alors là, c'est évidemment, on rentre dans la psychologie du personnage. Je suis pas psychanalyste, je suis pas psychologue, mais d'une certaine façon, pour quelqu'un dont la vie était tournée autour des conquêtes, des petites amies, tout d'un coup, se retrouver enfermé chez soi avec une prothèse ainsi diminuée, sans doute que ça joue dans son rapport aux femmes.
Et au travail aussi, puisqu'après, il peine à retrouver du travail.
Il peine à retrouver du travail. Il obtient, grâce à un avocat, Jean Goudarot, il obtient une petite pension, hein, parce que c'est quand même un accident du travail. Mais il est à part, dorénavant. Il est à part.
Il était animé d'une telle rancœur à l'égard des femmes. On dirait aujourd'hui féminicide. Le mot n'existait pas à l'époque. Mais nous étions dans un cas type où la haine du féminin ne pouvait conduire qu'au meurtre. In fine.
Aujourd'hui, on dirait qu'Amida John Doubi est un pervers narcissique, un manipulateur. Il a cette capacité, avec les gens qu'il rencontre, à les manipuler, à soumettre les femmes à ses désirs, en les rabaissant, donc en les manipulant psychologiquement, et puis bien sûr aussi en les frappant. Hein, il va soumettre les femmes avec un traitement de choc.
Mais l'élément fondateur, c'est le mauvais saint, le saint persécuteur. Enfin, il a pu dire qu'on lui introduisait des piments. Voilà, ce qu'il a fait après, dans la scène qui a précédé l'assassinat d'Elisabeth, et aux deux autres jeunes filles d'ailleurs, quand il s'est installé dans cette espèce de huis clos, dans la petite rue très chic, la rue Villa Paradis, dans le 8e quartier très bourgeois à Marseille, où il devait y avoir des cris absolument épouvantables et dont le voisinage s'est montré tout à fait sourd. Personne n'a rien entendu, ou n'a rien voulu entendre, puisque les deux petites jeunes filles ont décrit le fait qu'il enfonçait dans le vagin des piments avec des produits qui les brûlaient, etc.
De ce qu'il avait vécu, donc, enfant.
Ce qu'il disait avoir vécu.
Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, à partir de la plainte, il ne se voit plus.
Non, ils ne se voient plus et ils vont se retrouver par hasard. Marseille est un village. Ils vont se retrouver en juillet 1974 dans la rue. Hein, ils vont se rencontrer et il va lui dire « Viens donc à mon domicile, viens prendre un verre, etc. » Et elle fait l'erreur de le suivre. Et là, effectivement, quand elle est rentrée, il ferme les volets et c'est la séance de torture qui commence.
Il lui met de l'essence sur le sexe et sur l'anus et il y met le feu. Avec une bougie avec laquelle il la sodomise.
Jean-Jacques Anglade, avocat.
Il lui met de la rissa, il la brûle avec des cigarettes. Voilà ce qu'il lui fait subir, il la bat. Vous lisez éventuellement des comptes rendus de torture par la Gestapo ou par les nazis pendant la guerre. On est dans le même acabit, sans rentrer dans tous les détails sordides.
Coups de ceinture, électricité également, avec des fils dénudés, d'électricité sur son corps. Oui, c'est assez terrible. Ce qui est étonnant, c'est que cette séance de torture, elle se fait pas simplement dans un duo, dans un huis clos, entre Jean Doubi et Elisabeth Bousquet. Il y a là deux jeunes femmes, Annie et Amaria.
Dans quelles circonstances il a rencontré les deux jeunes filles, Jean-Jacques Anglade ?
Il les a rencontrées l'une après l'autre, presque ensemble, je crois sur la Canebière. Toutes les deux étaient en rupture avec leur famille, en fugue.
Vous avez quel âge ?
J'avais 15-16 ans. Et donc, il les a emmenés chez lui, sous prétexte de boire un verre. Et ce n'est qu'une fois arrivées sur place qu'elles ont réalisé qu'il allait, et ce qu'il a fait, les violer, les séquestrer et les torturer. Lorsque je suis désigné par le bâtonnier, pour assurer la défense de ces gamines, qui à l'époque sont accusées de complicité d'assassinat, de torture et d'actes de barbarie. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait tragique. Je vois le dossier avant de les rencontrer, ce que je trouve épouvantable. Voilà. Et pourtant, c'est la réalité. Leur comportement s'explique par, d'une part, la séduction. Il avait un certain charme, on le voit sur les photos. Et ensuite, un mélange fait de fascination et d'horreur. Le syndrome de Stockholm. Il y a ce sentiment, comment pourrait-on le définir ? C'est celui qui unit la victime à son bourreau. Pourquoi ? Parce que c'est une relation humaine. Et quand on est au fond du trou, on se raccroche à la moindre parcelle d'humanité. Et Jean Doubi, il représentait à leur corps défendant, à leur esprit défendant, cet aspect, cette parcelle d'humanité qui faisait qu'elles pouvaient survivre.
Parce qu'il les a séquestrées longtemps, elles auraient pu s'enfuir, elles ont tenté d'ailleurs, elles étaient sous son emprise en fait.
Alors elles étaient sous son emprise, lorsque l'une d'elles a essayé de s'enfuir, il l'a rattrapée dans la rue. Pour tout dire, elle était en slip et soutien-gorge couverte de brûlures de cigarettes. Il y avait plein de monde. C'était 11h30 midi en plein centre de Marseille. Personne n'a rien vu, personne n'a rien dit. Les témoins n'ont rien entendu. Quand on les a convoqués, parfois ils ne sont même pas venus.
Même la voisine.
Même la voisine. Et donc, il la rattrape. Et pour la punir, pendant 3 jours, elle est attachée sur une chaise, sans boire, sans manger, à être torturée incessamment pendant 3 jours.
Il a un but, il voudrait vivre sans travailler. Il a une petite pension, c'est pas grand-chose, mais il se dit, tiens, et si je devenais proxénète ? Alors pour ça, il faudrait qu'il ait plusieurs filles pour pouvoir les prostituer et gagner largement sa vie. Et Amaria, donc, il va la frapper jusqu'au moment où elle va accepter de se prostituer dans le foyer de jeunes travailleurs, où il l'emmène de temps en temps. Et puis Annie, c'est un petit peu la même chose. C'est une mineure, elle aussi, qui croit qu'elle est tombée, effectivement, là aussi, sur un jeune homme bien sous tout rapport. Et voilà, il l'a séduite, mais dès qu'elle est rentrée, là aussi, d'abord, il y a déjà une autre jeune fille, et puis elle se prend des coups, etc. Et elle va être soumise également.
Il faut
ménage
à trois,
ouais. On est dans les années 70. C'est un peu une atmosphère aussi de libération. Mais enfin, c'est une libération, en l'occurrence. Là, il y a un seigneur et maître, qui distribue les torgnoles et les coups de ceinture. Il faut lui obéir. Et puis, mais il y a quand même une rivalité entre les deux jeunes filles. Celle qui sera la favorite, celle qui se prendra des nions et l'autre qui couchera avec son seigneur. Si une veut s'enfuir, l'autre la dénonce. Il y a un jeu très, très... elles sont pas solidaires dans ce couple à trois. Et puis voilà qu'il y a Elisabeth, qu'elles n'ont jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, et la torture devant leurs yeux. Et puis le soir, eh bien, ils l'emmènent en voiture dans au milieu des oliviers, du côté de l'Anson de Provence, la Farles-les-Oliviers, dans un petit cabanon où il la traîne par la cheville, lui donne des coups pour qu'elle rampe. On est en pleine nuit, et bien là, il va l'étrangler avec un foulard. Et une fois qu'elle est bien morte, pour vérifier si elle ne respire plus, il lui donne un dernier coup qui lui casse le nez, un coup de pied.
Où sommes-nous, Jean-Jacques Anglade ?
Eh bien, nous sommes sur la commune de Lançon de Provence, à une quinzaine de mètres du lieu où il y avait un cabanon, dans lequel Amida Jean Doubi a assassiné Elisabeth Bousquet, début juillet 1974. Bien, moi, ici, je suis venu le jour de la reconstitution, quelques semaines après, puisqu'avec mon confrère et ami Jean-Claude Sebag, nous étions les avocats des deux jeunes gamines. Mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est que le jour de la reconstitution, donc en 1974, le procureur et le juge d'instruction reprochaient à nos deux clientes, à nos deux gamines, d'avoir aidé. Et ce que l'on a vu, c'est que dans cette caillasse-là que vous voyez par terre, Amida Jean Doubi avait fait tomber par terre Elisabeth Bousquet. Il voulait qu'elle se traîne en rampant vers le cabanon. Elle n'y arrivait pas. Il a donc pris son ceinturon, il lui a attaché le ceinturon à la cheville et il l'a tiré dans la caillasse. C'est à ce moment-là que les deux autres gamines, chacune d'un côté, l'ont prise par l'aisselle et l'ont portée vers la cabane. Porter Elisabeth Bousquet pour éviter qu'elle soit traînée dans la caillasse. On connaît l'histoire, qu'on soit croyant ou pas, de Simon de Cyrène. Les Romains l'ont réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. Et est-ce qu'il serait venu à quelqu'un l'idée de dire que Simon de Cyrène est complice de l'assassinat de Jésus par les Romains parce qu'il a aidé le Christ à porter sa croix? C'était la même chose. Elles ont aidé Elisabeth Bousquet dans son dernier calvaire. Voilà.
Alors les choses se cristallisent, si j'ose dire.
Eliane Perasso.
À partir du moment où il décide, inconsciemment il décide de la tuer. Et il décide de la tuer parce qu'il s'assure d'avoir des spectatrices semi-complices, dont on peut imaginer qu'à la fois elles sont terrorisées, mais éprouve quand même une certaine jouissance. En mettant à distance d'elle ce qu'il fait à Elisabeth, il ne me le fait pas à moi. Et l'opération sacrificielle, si j'ose dire, va durer toute une journée, car il s'agit bien d'un sacrifice. Il la conduit au Golgotha. Et là, il va l'étrangler devant les deux petites. Il n'avait pas omis d'apporter un foulard qui servirait de corde pour l'étrangler, etc. Donc, le rituel est déjà tout à fait au point dans sa tête. Il la conduit dans ce cabanon de Lançon. Il l'exécute. Et une fois qu'il s'est assuré qu'elle est bien morte, il lui écrase la tête avec son pied. C'est-à-dire que non seulement il lui retire la vie, mais il lui retire son visage. C'est tout à fait une scène mythologique. Une fois que l'opération est terminée, les trois s'en vont. Le dossier dit festoyer au Sainte-Marie de la Mer, qui n'est pas n'importe quel lieu. Hein, les saintes, elles étaient également trois. Ils vont festoyer et c'est cette orgie finale, si j'ose dire, qui met un point final à l'acte sacrificiel.
Mais voyez-vous, nous sommes ici, dans ce lieu où le cadavre, le corps, la dépouille d'Elisabeth Bousquet a été retrouvée. Lorsqu'on regarde le rapport de gendarmerie, il est indiqué que ce sont des promeneurs qui ont trouvé le corps d'Elisabeth Bousquet. En fait, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que ce cabanon servait un petit peu à des prostituées qui se prostituaient sur la Nationale 113 à amener leurs clients. Et ce sont des prostituées qui, dans ce cabanon, où elles avaient l'habitude de venir avec des clients, ont découvert le corps d'Elisabeth Bousquet. Mais pensant que c'était probablement un proxénète qui avait tué une prostituée, elles n'ont surtout pas voulu que les gendarmes fassent état de ce qu'elles avaient dénoncé. Donc, dans le PV de gendarmerie, il est noté que ce sont des promeneurs, dont on ne donne pas le nom d'ailleurs, hein, qui ont trouvé ce cadavre dans ce cabanon. Et donc, 2 jours après avoir tué Elisabeth Bousquet, il emmène pour se détendre ses 2 petites amies au Sainte-Marie de la Mer. Et ça va leur être après reproché. Elles ne l'ont pas dénoncé. Il a fallu qu'une 3e, Ouria, arrive, soit victime également de viol, de torture, de ces actes de barbarie. Et un jour où Amida s'était absentée quelques minutes, Ouria va convaincre sa co-victime d'aller au commissariat de police. Et Jean Doubi va être arrêté parce qu'on fait immédiatement le lien avec la découverte ici du corps d'Elisabeth Bousquet, qui avait été trouvé par les gendarmes mais dont on ne savait pas qui c'était à l'époque.
Amida Jean Doubi, une toute dernière peine. Avec Eliane Perasso et Jean-Jacques Anglade, avocat, Jean-Yves Le Naour, historien, attaché de production, Sylvia Favre, coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.